Alors, bonjour, bon matin, bonsoir et bienvenue à cette émission de Yoga Partout International. Aujourd'hui, André Veil. André Veil enseigne le yoga depuis plusieurs années et c'est un grand marcheur. Il découvre de nouveaux horizons à toutes les fois qu'il en a la André, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter?
Ah, bonjour. Ben voilà, je m'appelle André Veil. J'habite en France depuis 69 ans, dans la région des Alpes. Peut-être que le goût de la marche est venu de la proximité de mes montagnes. Je suis aujourd'hui père et grand-père de beaux enfants. De formation universitaire, je suis un physicien, un scientifique. Tout ça, c'est des qualificatifs périphériques, bien sûr. Et j'ai goûté au yoga il y a une bonne trentaine d'années. Et j'ai appris à l'enseigner avec François Laurin en 1996. Et donc, depuis, c'est un peu un deuxième métier pour moi. Et je donne 3 ou 4 cours par semaine, de manière très modeste.
Et voilà. Et voilà. Merci pour cette introduction. J'aimerais souligner pour les personnes qui nous écoutent, soit en différé, soit naturellement sur Internet, hein, tout passe par Internet, même en voiture, sur iTunes. Bref, j'aimerais souligner une petite note très personnelle, si vous ne m'en voulez pas trop, André. Votre voix, c'est naturel, là. Vous avez cette voix qui, moi, me plaît beaucoup. Ça ajoute de la chaleur. J'espère que personne ne trouvera trop de à ajouter.
Oui, c'est une malformation d'une corde vocale qui est quasiment de naissance et voilà, ça gêne pas
Et
dans la
voilà.
vie.
Et surtout pas, parce qu'on vous trouve sur Internet, effectivement, vous êtes physicien, vous avez fait des contributions importantes dans le monde scientifique. André Veil, je vais me permettre de faire un témoignage parce que ça m'a touché beaucoup et c'est ce que j'aimerais. Et c'est comme ça que j'aimerais que vous me présentiez votre yoga, comment vous en êtes venu au yoga. Par contre, je m'en voudrais justement de ne pas mentionner ce que vous m'avez confié avant notre émission, que pour vous, la marche, votre bâton vous a guidé bon, jusqu'à Compostelle, à Rome, vous avez aussi été à Auschwitz. Vous avez touché les murs de Jérusalem. Dernièrement, vous revenez des sources du Gange. Tout ça se trouve sur votre site. Et par contre, ce qui m'a touché, c'est votre mention que vous faites la marche en sens inverse. Peut-être que je me trompe là. Pouvez-vous nous parler un peu là de cette pensée de marcher vers nos origines, s'il vous plaît? Comment vous êtes venu au yoga?
Alors, comment je suis venu au yoga? Moi, c'est toujours de manière très simple. Par quelques amitiés, on a trouvé un professeur qui voulait bien s'occuper de nous pendant le temps de la pause de midi, qui à l'époque en France était assez longue. Et puis, au bout de quelques années, le professeur chez qui on était a demandé quelqu'un pouvait le remplacer parce qu'il allait, il allait quitter la région. Et ben voilà, c'est quelque chose qui m'a plu et j'ai fait cette formation avec François Lorrain. Vous parliez d'une similitude avec la marche, c'est ça?
Oui, exactement. Exactement, ce retour vers les origines. D'accord.
Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, et c'est ce que font la majorité des marcheurs, ils partent de chez eux, ou en tout cas ils partent d'un point, et ils vont vers un endroit, vers un lieu qui est porteur d'une énergie, porteur, on va rencontrer un maître, ou on va vers un lieu sur lequel il y a eu des enseignements, tels que des lieux des chrétiens, ou des lieux bouddhistes, etc. Et avec mon âge maintenant, cette année j'ai 69 ans, ce qui m'est venu c'était que il fallait arrêter d'aller vers l'extérieur, il fallait arrêter de toujours aller chercher quelque chose en dehors, mais qu'il était peut-être temps maintenant de revenir chez soi. Et donc cette année, pour la première fois, je suis parti de l'extérieur, donc je suis parti de Saint-Jacques-de-Compostelle, et je suis revenu chez moi, un chemin de 2 mois à peu près, et c'était la symbolique du retour à la maison.
Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe intérieurement, l'expérience spirituelle, le goût de vouloir mieux se connaître pendant tout ce temps, pendant ces marches? Pouvez-vous nous décrire une journée typique, s'il vous plaît?
Une journée typique? Alors, c'est toujours un lever. C'est toujours un lever d'assez bonne heure, parce que c'est bien de mettre quelques heures de marge par rapport à l'heure prévue d'arriver à l'endroit. Donc c'est toujours un lever juste à la fin de la nuit, de manière à partir au petit jour. Après, c'est il y a un petit déjeuner, bien sûr, assez léger. Et je divise mon temps de marche en 3, à peu près 3 fois 3 heures de marche, avec chaque fois un petit casse-croûte, mais très léger. Et le seul vrai gros repas, je le fais en fin d'après-midi, vers 6 heures. Mais auparavant, donc c'est une arrivée vers... Si je suis parti à 6 heures, c'est une arrivée vers 2-3 heures de l'après-midi. En arrivant, il faut trouver le lieu du logement. Il faut se doucher, il faut laver les vêtements pour le lendemain, les faire sécher, aller acheter un peu de la nourriture pour le lendemain. Il faut se masser, il faut se faire une sieste, se reposer, lire les topo guides pour préparer le chemin du lendemain. Éventuellement, aller repérer la sortie de la ville. Ensuite, il y a un temps de rencontre avec les autres pèlerins ou les autres marcheurs. Donc, ça dépend si je suis sur un chemin très, très fréquenté comme Compostelle ou un chemin de grande solitude comme les marches vers Jérusalem, par exemple. Et puis, il y a toujours un coucher de bonne heure, vers 9h, 9h30. Ce qui fait que la journée est assez pleine.
Ouais.
On s'embête pas.
Ouais. Et si je reviens toujours sur cette quête de revenir à votre lieu de résidence, à vos origines, de faire le trajet en sens inverse, si je peux m'exprimer ainsi, il n'y a pas les mêmes conditions. Vous ne rencontrez pas des marcheurs en quête de spiritualité. Comment arrivez-vous à faire de cette expérience de marche une rencontre avec vous-même?
Alors, bon, c'est vrai que du coup, on croise des gens. cet été, j'ai croisé beaucoup de personnes qui allaient à Compostelle, mais voilà, j'ai marché tout seul. Il y a la partie logistique, la partie trouver le chemin, ne pas se perdre, être dans les horaires, manger, se loger, tout ça. Ça, bon, c'est des habitudes qui se prennent très vite. Je ne sais pas trop comment répondre parce que ce chemin vers soi-même, c'est à l'évidence pas un chemin qui dépend de notre propre volonté. C'est-à-dire, je mets en place les conditions. Par exemple, là, je suis parti de Compostelle. Je suis passé en France à un endroit qui était la maison de mes grands-parents où j'allais quand j'étais en vacances en Corrèze, quand j'étais vraiment petit. Et puis, je suis rentré jusqu'à ma maison natale dans la région de Grenoble. Donc, ma responsabilité, c'est de mettre en place les conditions, de faire l'effort physique. Et après, après, c'est un peu la providence ou la divinité qui fait de ce chemin un chemin spirituel, quoi. La spiritualité n'est pas de l'ordre de l'effort ou de la volonté. Je pense que vous serez assez d'accord avec ça.
Absolument, absolument. Et en même temps, ce n'est pas un... Si je peux me permettre, ce n'est pas une fin en soi. C'est un chemin, effectivement. Comment s'est fait cette transformation? Parce qu'on ne devient pas enseignant de yoga comme ça. Ben oui, vous l'avez dit là. Vous avez étudié avec François Lorrain, qui est, à moins que je me trompe là, actif beaucoup dans le milieu sportif. On en connaît très peu de lui. Par contre, vous avez étudié, vous avez obtenu cette assurance que vous pouvez enseigner le yoga. Le yoga, c'est quoi pour vous, André Veil?
Alors, le yoga, on va dire que c'est une pratique. On peut en parler, mais tant qu'on en parle, c'est pas grand-chose. C'est un peu comme faire du vélo. Hein. On peut parler de faire du vélo tant qu'on ne se met pas sur la selle et qu'on pédale pas, on ne peut pas dire qu'on fasse du vélo. Le yoga, c'est pareil. Donc, ça commence par la pratique. Et puis après, on observe ce qui se passe. Et on arrive à ce partage entre un bien-être dans notre incarnation temporaire dans laquelle nous sommes. C'est sûr que il y a des bienfaits physiques et psychiques évidents, mais qui sont de toute façon de l'ordre de la temporalité. Et puis, derrière, on découvre un enseignement. Pour moi, ça a été Patanjali. Et puis, la découverte de la philosophie orientale, qui est, je dirais, assez fondamentalement différente des spiritualités occidentales, on va dire des trois religions méditerranéennes, que ce soit le christianisme, l'islam ou le judaïsme. Je dirais une des différences principales, c'est que en Occident, on est très marqué par la quête d'un paradis, que ce soit l'islam, le judaïsme ou le christianisme, c'est la même chose. Et on reçoit l'injonction quand on est petit que si on fait bien des choses, en particulier si on aide son prochain, si on est gentil, si y a plein de qualités, on va obtenir une réalisation, une sainteté, quels que soient les mots, mais en tout cas on aboutit à un état. Et moi, ce que j'ai compris de l'Orient depuis maintenant presque 30 ans, c'est que c'est un peu le contraire. En Orient, on demande aux enfants de grandir et de se réaliser. Donc de travailler, faire le yoga, rentrer dans un enseignement de spiritualité, etc. Jusqu'à enfin obtenir et savoir qui je suis. Et une fois que cette réalisation est obtenue, alors on peut sans dommage aller dans le monde, une fois qu'on a vaincu ses propres tigres, ses propres serpents dans nos forêts, que nous aura indiqué le maître, alors on peut aller dans le monde et effectivement aider son prochain, pour utiliser un vocabulaire chrétien. Mmh. Et je me souviens très bien d'une conférence de sœur Emmanuelle, cette grande sainte qui travaillait au Caire, dans les bidonvilles du Caire. Et devant un amphi de 1000 personnes, elle termine sa conférence. Et il y a des gens qui étaient très touchés, qui disaient « Ma sœur, comment est-ce qu'on peut faire pour venir vous aider au Caire ?» Ou Alexandrie, je crois. Non, je crois qu'elle était au Caire. Et elle a eu cette très belle réponse qui était de dire « Mais c'est très gentil, vous avez beaucoup de cœur, mais j'en ai un peu marre qu'il y ait plein de gens qui viennent chez moi pour m'aider et puis qui en fait n'ont pas acquis cette structure et cette maturité nécessaire et suffisante. Et après, je suis obligé de m'occuper d'eux. Mmh. » Donc elle pointait vraiment du doigt, pour être fort, il faut avoir une colonne vertébrale pour aller vers l'autre, quoi. Et la colonne vertébrale, c'est le yoga, quoi, c'est clair.
Ouais, ouais, c'est beau. C'est beau, effectivement. On entend, on lit des reportages. Il y a maintenant des entreprises de grande envergure qui vendent du tourisme écologique, du tourisme spirituel, du tourisme humanitaire. Et ce qu'on dit dans ces reportages qui ont été faits, qui ont été à fond dans l'étude de ce sujet, est qu'au bout du compte, ça peut même nuire à l'effort et la visée à long terme. Merci beaucoup, André, pour cette réponse. Je m'en voudrais, avant de vous demander de nous parler justement de ces découvertes à pied que vous faites et aussi des auteurs qui vous influencent, dont Anthony de Mello, les sagesses de Richard Moss et Eckhart Tolle, de ne pas mentionner votre site qui est tout à fait, mais c'est vraiment complet. Donc, ce que je vais faire, Monsieur Vell, c'est de mentionner l'adresse Internet et si je me trompe, s'il vous plaît, corrigez-moi. D'accord?
Oui, oui.
Alors, c'est andreveil.fr. A-N-D comme Daniel, R-E-W-E-I-L-L.fr. Est-ce exact?
C'est juste.
Parfait. Merci beaucoup. J'invite les gens à vous écrire, à communiquer avec vous. Vous êtes aussi un auteur. Vous avez écrit des ouvrages sur la marche, sur qui nous sommes, sur le bonheur, etc. Donc, j'invite les auditeurs, les auditrices à visiter votre site et à communiquer avec vous, puisque c'est à ça que sert Yoga Partout. C'est de faire découvrir des yogas, des personnes, des professeurs qui sont sur ce chemin. Et naturellement, sur Yoga Partout, nous avons aussi construit une page avec votre nom. Donc, vous allez simplement sur l'engin de recherche et vous écrivez tout de suite « André ». Et automatiquement, les choix vont apparaître et vous allez voir André Vell, votre nom apparaît. Et donc, voilà. André Vell, grand marcheur, découvreur de la vie, votre deuxième carrière, si on peut s'exprimer ainsi.
Excusez-moi, il y a une coupure, je ne vous entends pas bien des fois.
D'accord. Donc, ce que je vous demandais, c'est j'ai mentionné votre site qu'on peut communiquer avec vous. Pour vous, le yoga, c'est une seconde carrière finalement.
C'était, je dirais plutôt un complément.
Un complément, bon.
parce que je l'ai mené de front avec mon métier. En fait, j'étais un chercheur scientifique et j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec mes trois types d'activités. La recherche scientifique, le yoga et puis le sport d'endurance, que ce soit la marche, les marathons, le ski de fond, le VTT, etc. Tous les trois, je pense, sont des chemins d'humilité dans lesquels on est en recherche. Et pour être en recherche, il ne faut pas savoir a priori. Celui qui sait, il ne trouve jamais rien, puisqu'il sait déjà. Et j'ai bien aimé avoir ces trois domaines qui, a priori, sont très différents, mais qui, dans leur philosophie, se rapprochent beaucoup. Le yoga, qui est une recherche, l'aspect sportif, l'endurance, rencontre, engagement dans des endroits pas habituels, et puis la recherche scientifique.
D'accord. Et cette recherche scientifique, les origines de votre intérêt à découvrir le monde infiniment plus éthérique, le monde de la physique, quels sont les liens que vous pouvez faire entre des chiffres, des algorithmes ou des formules, des recherches scientifiques et le yoga. Est-ce qu'il y a un pont? Est-ce qu'il y a effectivement des liens qu'on peut faire?
Je dirais, je l'ai un peu abordé là, il y a une minute ou deux. Un chercheur est quelqu'un qui doit rester humble, qui a priori ne sait pas, et qui par contre a de la patience et laisse la place à l'attention. Je vais vous donner un exemple. Une fois avec un de mes techniciens, on avait monté une manip et je lui avais dit j'espère que sur ta plaquette sous le microscope, il va apparaître des petites globules, des petites pastilles rouges. Et puis, il fait toutes les manies, puis au moment de rendre compte, il me dit non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, quoi. Alors après, je suis allé avec lui, et puis je regarde sous le microscope. Ouais, effectivement, elles n'étaient pas rouges, elles étaient un petit peu bleues, mais les pastilles étaient apparues, quoi. Voilà. Donc, il faut pas se bloquer sur ce quoi je cherche. Si je sais à l'avance ce que je dois trouver, à ce moment-là, je ne le verrai jamais. Et je pense que le yoga est vraiment une dimension de ce type-là. Je rentre en yoga, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Je ne sais pas quel homme, quelle femme je vais trouver au fond, c'est-à-dire qui je suis. Si j'ai un prérequis de qui je suis, alors ça, jamais je vais le trouver.
D'accord.
Et le petit gamin que je suis toujours, en fait, adore ça, quoi. C'est un jeu. Je trouve que la vie est un jeu et le yoga est un jeu.
Oui, et le rire aussi, hein? C'est important pour vous dans vos cours, dans votre vie quotidienne. Je me fie un peu à votre blog là, qui est vraiment, vous écrivez beaucoup, beaucoup sur les sutras, naturellement. Et donc, pour vous, ça se résume à des expériences. L'éveil spirituel, André Weil, professeur de yoga en France, marcheur, qui a écrit plusieurs ouvrages et qui, de façon très, très humble, vous ramenez toujours à l'essentiel. Pour vous, l'éveil spirituel, qu'est-ce que ça veut dire?
J'ai pas entendu la fin de votre question. Vous m'entendez?
Oui, moi, je vous entends très bien.
Des fois, il y a quelques coupures. Donc, votre
Bon.
question concernait l'éveil?
Oui, c'est ça, l'éveil spirituel, parce que c'est une question qui revient régulièrement. Le yoga a justement cette simplicité de décoder la pensée de l'être humain. Vous l'avez bien dit, hein, la réalisation, un état de béatitude qui se retrouve dans tous les enseignements, le yoga aussi, naturellement, à sa façon. Pour vous, l'éveil spirituel, qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, c'est un peu une question, hein. Il peut y avoir des moments d'approche. Vous avez parlé le mot béatitude. Je pense que la béatitude, elle fait partie de ces vagues qui viennent et qui repartent. Pour moi, elle fait partie de cette temporalité. Il y a des gens qui témoignent y être de manière permanente. Donc, je n'ai pas cette expérience. Quand je parle du retour à soi, je ne suis pas loin de ce mot éveil. En fait, il faut arrêter de rêver que l'extérieur va pouvoir me nourrir suffisamment pour réaliser l'être que je suis. Et que l'éveil, c'est justement arrêter cette croyance que demain, quelque chose va m'arriver. L'éveil, c'est l'éveil au maintenant. C'est un regard, le yoga dit pratyahara, c'est la cinquième étape, le regard vers l'intérieur. S'éveiller à ce qui est et non pas rêver de ce qui sera demain. Donc, on va dire l'éveil, même si l'éveil n'a peut-être pas d'opposé ou d'antonyme, mais l'éveil pourrait être l'opposé du rêve. C'est comme l'image du sommeil. On rêve, on rêve, et puis tout d'un coup on se réveille sans l'avoir voulu. Et peut-être que le rêve était très beau et que le réveil va être oh là là, il fait gris, il pleut, et j'ai des courbatures. Non, c'est peut-être pas merveilleux l'éveil, mais au moins on sait qu'on est là. C'est cette connaissance de l'instant présent pour moi.
C'est beau ce que vous dites. J'ai cette curiosité de vouloir découvrir la personne, comment elle pense. Et à travers vos écrits, on peut voir que vous avez vraiment beaucoup voyagé. Pouvez-vous nous parler un peu de votre séjour à Damamahi, dans la région d'Auxerre? Vous avez été là quelques jours, plusieurs jours. Comment c'est là-bas?
Alors, c'est étonnant parce que ça a été une expérience douloureuse pour moi. C'est-à-dire, je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai quitté le stage avant la fin. Donc, j'aurais de la peine d'en parler parce que, d'une part, parce que ce que j'aurais à dire est assez négatif sur ce que j'ai vécu. Et par contre, je voudrais pas négativer ou dire du mal d'une structure vipassana, etc. Peut-être que les rencontres avec les organisateurs ce jour-là ont fait que ça a été bloquant pour moi. Et mon honnêteté, mon authenticité m'ont dit qu'il fallait que je parte.
Oui. Je vous interromps, André, parce qu'effectivement, vous l'avez bien dit, je pense que parfois on prononce des mots et ils sont mésinterprétés, hein, les vritis, les samskaras qui remontent, et donc les perceptions du mental. Je vais reformuler ma question, André, parce qu'effectivement, vous avez parlé d'éveil et que parfois l'expérience d'éveil spirituel n'est peut-être pas toujours très glorifiante. C'est surtout dans cette optique que j'aurais aimé avoir votre point de vue, puisque la vie est courte. La vie est courte et moi, je me dis, si on peut apprendre de l'autre, si on peut apprendre à qui nous sommes à travers l'autre, eh bien, peut-être que ça peut nous éviter des douleurs. Pouvez-vous nous parler un peu, justement, là, de ces dichotomies, de ces vritis, des fois, qu'on découvre et que vous avez découvert à travers vos marches et vos excursions, vos randonnées?
Mais écoutez, voilà, mais peut-être on peut parler des deux expériences. Adam Amaï, en Bourgogne, dans la région d'Auxerre, où ça a été vraiment douloureux physiquement. Je me sentais manipulé, etc. Et puis j'ai fait une autre expérience, celle-ci lumineuse, en Inde, dans l'ashram de Chandraswami, au pied de l'Himalaya, où je suis resté 3 mois, et effectivement, à méditer 4 fois 1 heure par jour pendant 3 mois. Et là, j'ai atteint cet état où le temps disparaît, le corps disparaît. Il y a une sorte de légèreté continue qui fait jour. On voit des visages, on entend des voix. J'ai pas reçu des messages d'aller sauver le monde, hein, mais réellement des gens me parlaient de manière simple et douce, et ils parlaient à l'André que je suis. Et donc ces deux expériences complètement opposées. Et peut-être la conclusion de ça, ça veut dire que jamais rien n'est acquis et que l'idée d'un éveil qui serait un état à obtenir demain et à partir duquel tout serait beau et merveilleux, voilà, ça casse un petit peu cette idée-là.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'Adam Amaï, pour moi, ça a été très douloureux.
D'accord. Et donc, vous avez rencontré, vous avez comme ça côtoyé pendant 3 mois Chandraswami, celui-là qui est décédé en mai 2017, tout récemment.
Non, il n'est pas décédé. Il est, jusqu'à il y a quelques jours, il était bien vivant.
Bon, d'accord.
Chandraswami Udasin, son ashram est un petit peu au nord de Dehradun, dans la région de Rishikesh Haridwar, là.
D'accord.
C'est un sage qui vivait au milieu de son île, à Haridwar, dans les années 70, je crois. Et c'est un Français, Yvan Amar, qui l'a fait sortir de sa retraite. C'est un homme qui est né réalisé, Chandraswami, et qui, tout de suite après ses études universitaires, est rentré dans la méditation et la solitude et la prière et la contemplation et tous ces mots qui nous font rêver. Et en fait, Yvan Amar l'a découvert, c'est Jean Klein qui lui avait dit « Va en Inde, il faut que tu trouves ton maître. » Je le fais très vite, hein, parce qu'il y a plein d'étapes entre les deux.
Oui,
et c'est lui qui a trouvé Chandraswami et qui du coup l'a fait sortir, lui a fait visiter l'Europe, l'a fait connaître et lui a fait construire un ashram au début à Haridwar. Puis quand Haridwar est devenu un petit peu mondain avec des hôtels 5 étoiles et les Beatles qui venaient et tout ça, a construit un ashram un petit peu plus loin. C'est un homme qui, pendant 33 ans, a arrêté de parler. Il ne faisait que écrire. Donc, tous les satsangs se passaient en échange d'écriture, en français, en anglais, en hindi. Et puis, depuis 2 mois, et je ne sais pas pourquoi, il s'est remis à parler. C'est un homme de 87 ans, d'une grande sagesse. Et je lui ai donné la main une fois. Une fois, il m'a pris par la main pour me faire promener. C'était en février 2015. Je peux vous dire que ma main, elle brûle encore. c'est étonnant l'aspect énergétique de ces personnes-là, quoi. C'est vraiment étonnant.
Et donc, pendant 33 ans, il n'a rien prononcé. Il écrivait seulement. Il vivait comme tout le monde, dans le sens qu'il n'était pas retiré. On pouvait comme ça le croiser. Par contre, il était en silence.
Voilà. Il communiquait par écrit. Il y a 1h30 de satsang à peu près tous les jours avec les gens qui vivent à l'ashram, plus les gens comme moi qui viennent de temps en temps. Puis des disciples du monde entier qui viennent quelques semaines, qui reviennent à la source de temps en temps. Tiens, je reparle de la source. et on disait que peut-être de temps en temps, la nuit, seul dans sa chambre, il parlait ou il chantait des bhajans. Mais en tout cas, en public, on ne l'avait jamais entendu parler. Non.
D'accord. D'accord. Et donc, quand vous êtes dans un endroit où vous ressourcez, vous retournez à votre essence, pour vous, le silence, de vivre en silence, c'est naturel, c'est facile, ou justement, il y a ces difficultés, ces contrastes des fois qui surviennent et qui vous prennent par surprise. Le silence pour vous lorsque vous marchez, par exemple, c'est important?
Oui. C'est vrai qu'entre méditer et marcher, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de similitudes. D'ailleurs, c'est son nom va me revenir, Jacques Vigne, qui a écrit « Méditer, marcher ». Si un jour le temps, l'énergie et la qualité me prennent, je pense que j'aurais envie d'écrire sur ces similitudes entre la marche et l'assise en silence. Le silence, pour moi personnellement, il ne faut jamais généraliser, pour moi c'est quelque chose qui m'attire, peut-être à cause de ma difficulté à parler, voilà, à cause que dans le silence, les mots juste viennent et que c'est une manière de préparer l'écriture. Chandraswami en a un bel exemple. Mais que trop souvent, la parole est trop rapide, trop facile, trop superficielle. Bien sûr, il y a des gens qui savent avoir cette parole très profonde. Richard Moss a été un de mes maîtres là-dessus, très très clairement. Mais c'est des gens qui savent laisser des temps de silence entre chaque mot, entre chaque phrase. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. Alors, ces expériences de silence, au début, comme vous le suggériez peut-être il y a quelques instants, c'est vrai qu'il y a les vrittis qui remontent, les samskaras, les choses qu'on croyait avoir réglées depuis 20 ans, 30 ans dans nos thérapies, dans nos expériences, dans nos amours, dans tout ça. Il y a des vieilles choses avec les parents, avec les familles, des vieilles choses qu'on croyait avoir réglées. Et puis sur un mois, 2 mois de silence, on les voit qui remontent. On se dit, mais mon Dieu, j'y suis encore, quoi. Donc c'est des belles leçons d'humilité. Et puis une fois qu'elles sont remontées, alors effectivement, une fois que le nuage est passé, il y a du ciel bleu qui arrive. Oui. Ça ne
Et
veut pas
voilà.
dire que les nuages ne reviendront pas, mais c'est des expériences fabuleuses. Oui, tout à fait.
Ouais.
Plutôt, c'est un peu comme la marche, plutôt que de dire j'atteins un but et puis j'y resterai dans ce nirvana, parce que c'est assez faux. Quand on revient dans la vie sociale normale, eh ben, dans le même temps qu'il a fallu pour acquérir ces états merveilleux, à peu près sur le même temps, quelques semaines ou quelques mois, ces états merveilleux se diluent, se reperdent. En tout cas, c'est mon expérience. Et alors, à ce moment-là, on me dit, mais à quoi ça sert? Eh bien, j'ai une réponse très, très précise. Ça sert qu'on sait que ça existe. Ce n'est plus des
Ah, c'est
mots.
bio. Ouais.
Voilà. Et que si je veux, si je me donne les moyens, j'ai une bonne chance de le retrouver. Mais je sais que ça existe. Et ça, c'est une force, c'est une colonne vertébrale qui me construit et qui nous construit. Savoir que ça existe. Même si après, je suis un être et un homme normal dans une vie normale. Dans une vie sociale normale, avec des hauts et des bas, des joies et des souffrances, le fait de savoir que le beau, le vrai, le bon, le juste, le saint, avec un T ou sans T, existe, ça c'est vraiment structurant.
C'est beau ce que vous dites, oui. Merci, André Veil, marcheur, auteur, enseignant de yoga, physicien, et surtout, un être humain qui découvre qui il est, citoyen du monde. André Veil, on va parler de Patanjali. On va parler parce que vous avez mentionné justement là que parfois il y a comme ça là des nuages qui passent, hein, des fameux samskaras, les grantis, les vrittis. Et vous avez quand même fait un ouvrage que beaucoup de personnes souhaiteraient dire avoir fait. Sauf que vous ne l'avez pas dit, vous l'avez vraiment fait, vous avez épluché les textes de Patanjali. Dans les sutras, dans les chapitres des textes de Patanjali, quels sont ceux qui vous ont procuré de la bienveillance? Quels sont ceux qui vous ont comme ça rassuré et qui ont réussi à stabiliser votre marche vers la source de qui vous êtes? Patanjali, des extraits, des sutras qui vous ont touché.
Alors, tout de suite, je dirais, il y a le premier mot. Il y a le premier mot, atta. Atta, maintenant. Une fois qu'on a dit ça, on a presque tout dit, quoi. Maintenant, ça indique la direction, quoi. C'est pas hier, c'est pas demain. Et puis, Hatha Yoga Asanasanam, le yoga nous est enseigné maintenant. J'aime bien le mot enseigné parce que le marcheur que je suis aussi, il a le mot enseigne. C'est une enseigne, c'est une balise, c'est une pancarte, une direction. Et voilà, le yoga n'est pas un état dans lequel, en arrivant, on pourrait s'asseoir comme une grenouille sur son caillou, arriver au paradis. Mais c'est bien une enseigne, c'est une direction. C'est un chemin, on va vers. Donc ce premier sutra, pour moi, il est merveilleux parce que il est merveilleux dans sa symbolique. Mais c'est vrai que j'ai parcouru les Patanjali, les sutras de Patanjali, à raison d'un sutra par semaine. Donc, comme il y en a 200, et puis qu'il y a 30 ou 40 semaines par an, et ben ça fait à peu près 4 ans, 5 ans. Et le dernier chapitre a été pour moi assez, assez fort. C'est celui de Kaivalya. C'est celui. Alors, Kaivalya, comment on peut le traduire? Il y a des gens qui le traduisent en libération. C'est des gens qui sont optimistes. Mais mon professeur, François Laurin, le traduit par isolation, isolement. C'est-à-dire, c'est l'invitation au chemin du retour vers soi, mais qui n'a pas le goût sucré de la libération, mais qui peut avoir parfois le goût amer de la solitude. Et ce mot Kaivalya, dans les dictionnaires sanskrits, effectivement, il porte les deux dimensions. Et en fait, tout ce chapitre 4, il nous fait rêver de par obtenir ces pouvoirs, mais ce sont bien sûr des pouvoirs symboliques. Il n'y a aucune raison de se mettre à léviter. Enfin, à quoi ça sert, quoi? Moi, je suis bien sur mon tapis, j'ai pas besoin d'être 50 cm au-dessus du sol. Mais par contre, entendre que la vie est légère et que on n'a pas à être plombé par l'événement qui arrive, comme disent les sages indiens, je crois que c'est Nisargadatta Maharaja, rien ne m'arrive. Tout arrive dans le monde, mais rien ne m'arrive. Donc, ne rien faire de personnel, et tous ces pouvoirs, tous ces fruits du chapitre 3 et du chapitre 4 qui nous sont promis sont dans l'aspect symbolique, mais sont extrêmement goûtus, sont extrêmement plaisants. Et une fois qu'on a abandonné l'idée de s'accrocher à quelque chose, ben voilà, le voyage est léger et les rencontres sont plaisantes. Moi, j'ai pas beaucoup plus d'ambition que ça. Je sais pas si vous vous en avez. Continuez à rire. Oui, continuez à rire. Vous avez parlé du yoga du rire.
Oui.
On n'a pas encore abordé, je voudrais le faire. Tous les mercredis matins, donc ce matin, je vais en prison. Et j'aime bien, il y a un journaliste un jour qui a titré un article sur moi, un professeur de yoga en prison. Donc les gens, ils disent quoi, professeur de yoga, c'est une référence d'honnêteté, quoi, voilà. Et voilà. Donc en fait, tous les mercredis matins, je vais donner un cours de yoga en prison, dans une prison de barreaux et de béton. Mais vous savez, on est tous en prison. On a tous nos propres prisons, on a tous nos addictions. Donc j'apprends beaucoup d'aller voir ces personnes en détention. Et quand je le sens, quand c'est juste, c'est pas prévu à l'avance, mais quand je le sens, on fait quelques respirations un peu intenses, telles que le Kapalabhati par exemple, sur plusieurs minutes, et quand je les vois qui sont bien partis, on s'arrête net et on part à rire. Non, pas à rire. Imaginez ce que ça peut être pour des surveillants qui nous regardent et qui voient 10 bonhommes en détention, crouler de rire, qui ont mal au bide, qui n'arrivent pas à s'arrêter de rire, parce que quand ça s'arrête, il suffit de faire et hop, les 10 autres partent comme en 14, quoi. Et ça, c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir soulager, j'allais dire soulager les gens, mais c'est pas ça. C'est soulager les corps, soulager la vie, lui donner de la légèreté, de la lévitation, uniquement par le rire.
Merci. C'est pour moi un réveil que celle. Je qui écoutent cette émission en différé ou sur Internet, que vous soyez trop tôt sur iTunes, sur podcast, téléphone intelligent ou simplement devant votre ordi, je vous invite à visiter le site d'André Veil. Je vais de nouveau mentionner votre adresse Internet pour les gens qui voudraient découvrir les ouvrages que vous avez écrits. Donc, c'est André Veil, A-N-D-R-E-W-E-I. LL.fr. Merci André de cette observation des sutras de Patanjali. On pourrait en parler beaucoup. Naturellement, vous l'avez mentionné, il y a une distinction entre les Siddhis et la représentation symbolique qu'on peut s'en faire versus la réalité. Toutefois, dans vos méditations, y a-t-il un sutra? Y a-t-il justement une expérience de faire samyana sur la force de l'éléphant, sur la compassion, sur devenir invisible? Bref, pouvez-vous nous en parler un peu plus davantage? C'est tellement intéressant ce que vous nous racontez.
Vous êtes très gentil, Daniel. C'est vrai que c'est des choses qui sont en dehors du mental. Faire samyana sur telle et telle partie du corps et à ce moment-là, tel et tel fruit, telle et telle lumière apparaît. Chaque fois, c'est une expérience différente. J'aime la surprise. Comment dire? Vraiment, le conseil, c'est arrêter de croire au mental. Le mental, il est dans tout ce qui est logique. En tant que physicien, je sais bien ce dont je parle. Le mental, il est aussi dans tout ce qui est absurde. Le mental, il est dans tout ce qui est imaginaire, dans tout ce qui est roupille, dans tout ce qui manque d'énergie. Et puis bien sûr dans la mémoire. Et donc porter l'attention. Déjà porter l'attention, c'est presque hors sujet, puisque on pourrait croire qu'il y a quelqu'un qui porte l'attention. En fait, il faut plutôt se déshabiller, se dénuder de nos croyances et laisser l'attention se porter sur. Et non pas croire qu'il y a un individu qui, si ce je lui porte l'attention sur quelque chose, alors lui, il va être gratifié, il va acquérir et obtenir quelque chose. Là, on est tout à fait dans nos traditions judéo-chrétiennes, et on sait que ça marche pas, quoi. Donc la première des choses, c'est d'arrêter de croire qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose et qu'effectivement, on laisse l'attention se porter sur telle ou telle partie du corps, telle ou telle partie de la vie. Et du coup, après, moi, je doutais un peu de Patanjali. Je me disais, mais... Vous voyez, comme je suis iconoclaste. je me disais, mais est-ce que c'est le fait que l'attention se porte sur tel ou tel endroit, ou est-ce que c'est simplement le fait de disparaître et de faire confiance à la vie qui va porter l'attention sur tel ou tel endroit, quoi. Est-ce que c'est simplement le fait de se déshabiller de nos identités qui va amener ce fruit, ou est-ce que c'est réellement de le porter sur... Comme c'est dit, je crois que c'est dans le chapitre 3 qu'il y a tout ça. Parce que, en fait, j'ai toujours peur que les gens qui m'écoutent prennent ça comme des recettes.
Oui.
Et dès qu'on prend le yoga comme une recette, et ben ça foire, quoi, c'est sûr.
Donc c'est d'arrêter.
Oui, arrêtez de croire.
Et voilà. Et voilà.
On se met en disposition. L'attention, bah tiens, elle va se porter là. Elle va se porter peut-être ce soir, elle se portera sur mon ami Daniel, ou sur telle autre personne, ou notre amie commune Nathalie, qui va peut-être écouter ce témoignage, ou l'attention va se porter sur telle partie de ma vie aujourd'hui, et tout ça. Mais autrement, on retombe dans la prière de demande, qui est en fait issue de notre ego, quoi. Et je pense que Patanjali, chez moi, il a eu cet effet de casser cette croyance, réellement.
Est-ce que
Imaginez
l'ego,
que.
pour vous, c'est un outil? Est-ce qu'il est à votre service ou vous tentez simplement de faire fi du mental comme ça là qui nous joue des tours, hein?
Bien.
Vous avez parlé précédemment de tigre, de serpent, l'ego. Pouvez-vous nous parler un peu là du rôle que l'ego porte chez l'être humain, s'il vous plaît?
À mon avis, c'est très dangereux de parler de la suppression de l'ego. Pourquoi? Parce que si on le supprime et qu'on n'a rien mis à la place, alors on se retrouve vraiment dans des difficultés profondes. C'est-à-dire, l'ego, il est à la base de notre incarnation. Et on en a besoin autant qu'on a besoin de notre incarnation. Et à un moment, sur notre chemin, on s'aperçoit de nos limites. Et si on se retourne vers l'ego, en tant que c'est lui qui se retourne vers lui-même, il se rend compte de ses propres limites. Il y a des choses qu'il ne sait pas dire, qu'il ne sait pas faire. Et à ce moment-là, on va commencer à mettre en place le domaine spirituel, l'esprit, le divin. Mais tant qu'on n'a pas mis ça en place, il serait extrêmement dangereux et néfaste de casser l'ego. Et donc, plutôt que de dire je vais casser l'ego, on va attendre que l'ego il s'en aille tout seul, quoi. Il va un jour, il va faire sa révérence, il va voir qu'il est battu. Il est battu par la joie d'être, simplement, quoi. Donc, je résume. Si on lui fout un coup de pied dans le cul à l'ego, si on le fout à la porte, il va rentrer par la fenêtre. Ça, c'est sûr. Oui. Mais parce qu'en fait, on en a besoin. Et puis un jour, on va dire, c'est comme l'enfant et le parent. L'enfant, un jour, il va quitter le parent, alors que pendant 20 ans, ou 15 ans, ou 30 ans, ça dépend de chaque expérience, il a eu besoin du parent. Et quelle est la force de vie qui, un jour, lui dit, je te remercie, tu m'as été utile, mais maintenant il m'est utile que je n'ai plus besoin de toi. Voilà un peu l'image que je donne de l'ego. On peut le remercier un jour, lui dire, tu m'as été utile, je me suis construit, mais maintenant si je reste avec toi, je vais décliner. C'est comme si je restais avec mes parents, quoi. Ça n'a pas de sens.
C'est beau. Merci beaucoup. Il y a rien à rajouter finalement. Vous le dites vous-même là, hein. En résumé, l'ego, il est à notre service.
Absolument.
Et qu'est-ce que votre ego vous incline à faire, à continuer, parce que vous pourriez très bien faire vos marches par vous-même. Vous amenez des gens avec vous lorsque vous partez comme ça pour de longs, peut-être pas de longs séjours, toutefois, est-ce que vous apportez, est-ce que vous amenez des gens avec vous? Est-ce que vous voyagez et vous marchez en groupe? Bon, alors on a perdu la communication. Je vois que sur le tableau de bord, Monsieur Bale n'est plus visible. Malheureusement, les technologies font que parfois il y a des coupures comme ça. Nous allons attendre quelques instants pour vérifier s'il nous rejoint. Et voilà, il est revenu. Donc, la communication s'était coupée, Monsieur Andréville. Je m'en suis rendu compte et voilà. Merci beaucoup d'être revenu. Vous êtes reconnecté.
C'est la précision à 1h00 qui avait coupé.
Alors, ce à quoi je voulais en venir, c'est de nous parler un peu du futur, le futur improbable, du futur qui viendra un jour ou l'autre, qui n'existe pas, du passé aussi, qui n'existe plus. Par contre, vous faites des randonnées, vous demeurez tout près des Alpes, comme vous l'avez mentionné. Est-ce qu'il vous arrive d'amener des marcheurs avec vous?
Alors ça m'est arrivé, oui, comme vous le signaliez, sur des périodes beaucoup plus courtes, d'une semaine ou 10 jours au maximum, parce que ça nécessite des grosses préparations. Quand moi je pars le matin et que je sais pas où je dors le soir, ben c'est pas grave, quoi. Quand vous avez 15 personnes derrière qui sont remplies d'inquiétude, c'est bien de leur dire qu'on va arriver à telle heure, qu'on aura presque leur dire qu'on aura ceci et cela au menu et qu'on sera logé à tel et tel endroit. Voilà, ça c'est la réalité d'un groupe. Donc emmener un groupe, c'est un gros travail de préparation. Mais je l'ai fait un petit peu en Espagne, puis un petit peu en Suisse. Mais je pense pas que ça m'attire beaucoup. Je le fais un petit peu.
D'accord.
J'ai emmené aussi quelques-uns de mes élèves et amis professeurs. Là, je les ai emmenés chercher en droit Swami et puis aussi, à Rishikesh, là, en bord du Gange. Mais j'ai plus le goût à la solitude, c'est vrai. Donc, j'ai un goût à écrire. Et il y a un livre qui va sortir au mois de février sur le chemin d'Assise.
Février 2018.
2018, oui.
Oui.
Oui, on est en octobre 2017. C'était suite à ce chemin vers Assise. Et vous imaginez que François d'Assise, c'est un peu mon copain dans le domaine de l'enseignement, de la spiritualité et de la vie concrète, de la vie incarnée. Donc il va y avoir un livre qui sort. J'ai remis le manuscrit déjà, il a été accepté, donc ça sera bon. Je vais à Noël, je retourne en Inde, à cette fois-ci dans l'Inde du Sud, auprès de frère John Martin, et c'est un prêtre chrétien qui cherche à faire le pont entre la sagesse indienne et les enseignements des évangiles. Donc c'est un sujet qui m'a pas mal parlé. J'y vais 15 jours, là, 18 jours à Noël. Et puis cette année 2018, j'ai pris une autre grande décision, qui est que de n'enseigner le yoga que 6 mois par an, c'est-à-dire de septembre à avril, parce qu'autrement, je me retrouvais un peu coincé dans les vacances scolaires, et d'enseigner de septembre à juin, je me sentais un peu frustré. Donc cette année, pour la première fois au mois d'avril, je vais être libre, en 2018. Voilà, il y aurait peut-être un goût peut-être de revenir de Jérusalem, ou bien d'aller du côté de l'Iran. Iran, Géorgie, Ouzbékistan, qui sont des pays qui s'ouvrent. Il y a aussi, on m'a invité à faire le tour de la Bretagne. Voilà, donc il y a des envies lointaines et des envies proches. Et puis aussi en écriture, comme je le disais au début de l'émission, je voudrais écrire sur marché médité. Et puis aussi publier ce qui est sur le site, là, un petit peu toutes ces résonances avec Patanjali et les Yoga Sutras. Même si je ne suis pas sanskritiste à proprement parler, j'ai pas du tout cette prétention, mais je pourrais partager toutes les résonances et tout ce travail qui a été fait avec les élèves.
Ouais.
Et puis j'ai mon métier en père avec mes petits-enfants, mes petites filles.
Ah ben oui. Ah ben oui. Donc, votre visite en Amérique n'est pas pour demain matin. On veut vous rencontrer, on veut prendre un cours avec vous, on veut commander ou lire un de vos livres. Vous êtes très bien, vous êtes facile à trouver. Vous utilisez les éditions, la maison d'édition, le Mercure dauphinois. Si je me trompe, vous me corrigez là.
Oui.
Plusieurs ouvrages sont disponibles. Ils peuvent même être commandés en ligne. C'est vraiment une belle découverte. S'il y avait un souhait, un sankalpa là qui vous habite ces temps-ci, parce que vous êtes tellement prolifique. Votre blog contient des centaines d'articles. Alors les gens, les personnes qui écoutent cette émission, je vous invite vraiment à visiter andreveil.fr parce que on ne se lasse pas. André Veil, auteur, grand-père, marcheur, homme de science, et j'en passe, un être humain authentique d'abord et avant tout. Si je vous laissais comme ça le dernier mot, un souhait dans cette humanité qui vit des grands bouleversements, il y a des endroits sur la Terre où il y a des grandes souffrances, des grandes douleurs qui sont vécues. Quel serait votre souhait, votre prière, une méditation? Je vous laisse presque le dernier mot.
Alors, je vais en dire deux. Il y en a, c'est juste un clin d'œil comme ça, d'amitié. Oui, effectivement, si des amis canadiens m'invitent à venir, d'ailleurs j'en connais plusieurs, pourquoi pas aller faire un tour au Canada? Ça, c'était juste le clin d'œil amical. Mais vraiment profondément, j'ai été touché par le monastère en Syrie, qui est ce monastère de Marmoussa. Le jésuite qui dirige ce monastère depuis le 29 juillet 2012 ou 2013 a disparu. Aujourd'hui, ce monastère n'est pas accessible aux étrangers. Si je veux avoir un rêve, un sankalpa comme ça, j'aimerais retourner à ce monastère dans lequel, pour une des premières fois de ma vie, j'ai senti que j'arrivais chez moi, que je pouvais m'arrêter là, définitivement, et retrouver, si ce n'est le corps, au moins l'âme de ce père Paolo Dall'Oglio, qui pour moi a été un des héros de la résistance syrienne et de la construction de l'amour entre les chrétiens et les musulmans. Voilà un beau rêve qui pourrait se réaliser.
Merci. C'est dommage que la communication ne soit pas aussi bonne, André Veil. On vous entend difficilement. Il y a comme des petites coupures. Et donc, pour les personnes qui n'auraient pas entendu correctement, je vais me permettre de répéter votre dernier, qui serait celle de retrouver ce monastère en Syrie que vous avez, qui a disparu, si je peux m'exprimer ainsi, qui n'est plus accessible depuis 2013. Voilà, l'invitation, le souhait, le sankalpa est fait. Et votre invitation, André Veil, de venir ici au Canada, en Amérique du Nord, a été reçu. Donc, a été reçu. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous allons nous reparler. Nous allons nous reparler. Je vous remercie beaucoup de cette grande ouverture, cette spontanéité, parce qu'il n'y avait aucune question de prête, là. Vous avez dit oui, j'accepte, et puis voilà, on se parle par les voies de la web radio de Yoga Partout. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous envoyez mes salutations à Madame Nathalie, notre amie commune, et je vous souhaite tout le bonheur, Andréville. Merci beaucoup.
Merci, je vous envoie miroir tous vos souhaits et vous félicite pour ce travail très original que vous faites à l'intérieur du monde du yoga.
Namasté.
Namasté, Om Shanti.